Bonjour, vous écoutez Syllabus sur Pinade. Aujourd'hui, les città invisibili, les villes invisibles d'Italo Calvino. Né à Santiago de Las Vegas, à Cuba, Italo Calvino a grandi à San Remo, a résisté en Ligurie, a travaillé à Turin, a aimé à Paris, est reparti vivre à Rome et est mort à Sienne. Il a aussi écrit Les villes invisibles. De longues années, je souffris d'une névrose géographique. Je ne réussissais pas à rester plus que 3 jours de suite dans aucune ville, écrivait-il. Écoutez-le. En partant de là, et en allant 3 jours vers le levant, l'homme se trouve à Diomira, une ville avec 60 coupoles d'argent, des statues en bronze de tous les dieux, des rues pavées d'étain, un théâtre en cristal, un coq en or qui chante chaque matin sur une tour. Toutes ces beautés, le voyageur les connaît déjà pour les avoir vues aussi dans d'autres villes. Mais le propre de celle-ci est que si on y arrive un soir de septembre, quand les jours raccourcissent et que les lampes multicolores s'allument toutes ensemble aux portes des friteries, et que d'une terrasse, une voix de femme crie « Ouh !» On en vient à envier ceux qui, à l'heure présente, pensent qu'ils ont déjà vécu une soirée pareille et qu'ils ont été cette fois-là heureux.
Thank you.
Il vient à l'homme qui chevauche longtemps au travers de terrains vagues, le désir d'une ville. Pour finir, il arrive à Isidora, une ville où les palais ont des escaliers en colimaçon incrustés de coquillages marins, où l'on fabrique lunettes et violons dans les règles de l'art, où, lorsque l'étranger hésite entre deux femmes, il en rencontre toujours une troisième, où les combats de coqs dégénèrent en rixes sanglantes, mettant aux prises les parieurs. C'est à tout cela qu'il pensait quand il avait le désir d'une ville. Isidora est donc la ville de ses rêves. À une différence près. Dans son rêve, la ville le comprenait lui-même, jeune. Il parvient à Isidora à un âge avancé. Il y a sur la place le petit mur des vieux qui regarde passer la jeunesse. Lui-même y est assis, parmi les autres. Les désirs sont déjà des souvenirs. Au-delà de six fleuves et trois chaînes de montagnes surgit Zora, ville que ne peut oublier celui qui l'a vue une fois. Mais ce n'est pas qu'elle laisse dans le souvenir, comme d'autres villes mémorables, une image hors du commun. Zora a la propriété de rester dans la mémoire endroit après endroit, dans la succession de ses rues et de ses maisons le long des rues et des portes et fenêtres des maisons, bien qu'elle n'y déploie aucune beauté ou rareté particulière. Son secret est dans la façon dont la vue court sur des figures qui se suivent comme dans une partition musicale, où l'on ne peut modifier ou déplacer aucune note. L'homme qui sait de mémoire comment Zora est faite, la nuit, quand il ne peut dormir, il imagine qu'il marche dans ses rues et il se rappelle l'ordre dans lequel se suivent l'horloge de cuivre, l'auvent rayé du barbier, la fontaine aux sept jets d'eau, la tour de verre de l'astronome, le kiosque du marchand de pastèques, la statue de l'ermite et du lion, le bain turc, le café du coin, la traverse qui conduit au port. Cette ville, qui ne s'efface pas de l'esprit, est comme une charpente ou un réticule dans les cases duquel chacun peut disposer ce qu'il veut se rappeler. Noms d'hommes illustres, vertus, nombres, classifications végétales et minérales, dates de bataille, constellations, parties du discours. On pourra, entre chaque notion et chaque point de l'itinéraire, établir un lien d'affinité ou de contraste qui servent à la mémoire de rappel instantané. Si bien que les hommes les plus savants du monde sont ceux qui savent Zora par cœur. Mais c'est inutilement que je me suis mise à voyager pour visiter la ville. Contrainte de demeurer immobile et égale à elle-même pour qu'on s'en souvienne mieux, Zora languit, ses défaites, a disparu. La terre l'a oubliée. À Morilia, le voyageur est invité à visiter la ville et à considérer dans le même temps de vieilles cartes postales qui la représentent comme elle était avant. La même place, toute pareille, avec une poule là où maintenant est la gare des autobus. Le kiosque à musique à la place de la passerelle. Deux demoiselles avec des ombrelles blanches à la place de la fabrique d'explosifs. Pour ne pas décevoir les habitants, il convient de faire l'éloge de la ville telle qu'elle est sur les cartes postales et de la préférer à celle d'à présent. mais en ayant soin de contenir son regret des changements dans des limites précises. Le voyageur doit reconnaître que la magnificence et la prospérité de Morelia maintenant qu'elle est devenue une métropole, si on les compare à ce qu'elle était, à ce qu'était la vieille Morelia provinciale, ne compense pas une certaine grâce perdue, laquelle cependant ne peut se goûter qu'à présent sur les vieilles cartes postales, tandis qu'auparavant, avec sous les yeux la Morelia provinciale, on ne voyait à vrai dire rien de cette grâce, et on en verrait aujourd'hui moins que rien si Morelia était restée telle qu'elle. Et en tout état de cause, la métropole a cet attrait supplémentaire qu'au travers de ce qu'elle est devenue, on peut repenser avec nostalgie à ce qu'elle était. Gardez-vous bien de leur dire que parfois des villes différentes se succèdent sur le même sol et sous le même nom, naissent et meurent sans s'être connues, sans jamais avoir communiqué entre elles. Quelquefois même, les noms des habitants restent les mêmes, et l'accent de leur voix et jusqu'aux traits de leur visage. Mais les dieux qui demeurent sous les noms et sur les lieux sont partis sans rien dire. Et à leur place, se sont nichés des étrangers. Il est vain de demander si ceux-là sont meilleurs ou pires que les anciens dieux, puisqu'entre eux, il n'y a aucun rapport. De la même façon que les vieilles cartes postales ne représentent pas Morelia telle qu'elle était, mais une autre ville qui par hasard s'appelait aussi Morelia. À Ercilly, pour établir les rapports qui régissent la vie de la ville, les habitants tendent des fils qui joignent les angles des maisons, blancs ou noirs, ou gris, ou blancs et noirs, selon qu'ils signalent des relations de parenté, d'échange, d'autorité, de délégation. Quand les fils sont devenus tellement nombreux qu'on ne peut plus passer au travers, les habitants s'en vont. Les maisons sont démontées. Il ne reste plus que les fils et leurs supports. Du flanc d'une montagne où ils campent avec leurs meubles, les émigrés d'Ercilly regarde l'enchevêtrement des fils tendus et de piquets qui s'élèvent dans la plaine. C'est là toujours la ville d'Ersili, et eux-mêmes ne sont rien. Ils réédifient Ersili ailleurs. Avec des fils, ils tissent une figure semblable qu'ils voudraient plus compliquée et en même temps plus régulière que l'autre. Puis ils l'abandonnent et se transportent encore plus loin, eux-mêmes et leur maison. Ainsi, en voyageant sur le territoire d'Ersili, tu rencontres les ruines des villes abandonnées, sans les murs qui ne durent pas, sans les os des morts que le vent fait rouler au loin. Des toiles d'araignées de rapports enchevêtrés qui cherchent une forme. Après avoir marché 7 jours à travers bois, celui qui va à Bossis ne réussit pas à la voir et il est arrivé. Des perches qui s'élèvent du sol à grande distance les unes des autres et se perdent au-dessus des nuages soutiennent la ville. On y monte par de petits escaliers. Les habitants se montrent rarement à même le sol. Ils ont déjà là-haut tout le nécessaire et ils préfèrent ne pas descendre. Rien de la ville ne touche terre en dehors de ses longues pattes de phénicoptère sur lesquelles elle s'appuie et, les jours où il y a de la lumière, du nombre dentelées, anguleuses, qui se dessinent sur le feuillage. On fait trois hypothèses sur les habitants de Beaucis. Qu'ils haïssent la terre, qu'ils la respectent au point d'éviter tout contact avec elle, qu'ils l'aiment telle qu'elle était avant eux, et que, s'aidant de longues vues et de télescopes pointés vers le bas, ils ne se lassent pas de la passer en revue, feuille par feuille, rocher par rocher, fourmi par fourmi, y contemplant, fascinés, leur propre absence. Arrivé à Philide, tu prends plaisir à observer combien sont différents les uns des autres les ponts qui enjambent les canaux. Ponts en dos d'âne, ponts couverts sur pilotis, ponts de bateaux, ponts suspendus avec des parapets ajourés. Quelle variété de fenêtres ouvrent sur les rues ? À meneaux, mauresques, lancéolées, ogivales, surmontées de lunettes ou de rosaces. Combien de sortes de pavements couvrent le sol ? Cailloux, dalles, pierres taillées, palets blancs et bleus. À tout endroit, la ville offre des surprises au regard. Une touffe de capriers qui sort du mur de la forteresse. Les statues de trois reines sur une console. Une coupole en forme de bulbe avec trois petits bulbes enfilés dans la flèche. Heureux celui qui, chaque jour, a Philide sous les yeux et n'en a jamais fini de voir ce qu'elle contient, t'exclames-tu, au regret de devoir quitter la ville après n'avoir fait que l'effleurer du regard. Qu'il t'arrive au contraire de t'arrêter à Philide et d'y passer le reste de tes jours, très vite, la ville se ternit à tes yeux. Les rosaces, les statues sur leurs consoles, les coupoles s'effacent. Comme tous les habitants de Philide, tu suis des lignes en zigzag d'une rue à l'autre. Tu distingues les zones de soleil et les zones d'ombre. Ici, une porte. Là, un escalier, un banc où tu peux poser ton panier, un fossé où le pied se prend si tu n'y prends pas garde. Tout le reste de la ville demeure invisible. Philide est un espace où l'on trace des parcours entre des points suspendus dans le vide. Le chemin le plus court pour atteindre la tente de tel marchand en évitant le guichet de tel créancier. Tu cours après, non pas ce qui se trouve au dehors, mais au dedans de tes yeux, ensevelie, effacée. Si un portique continue de te paraître plus joli qu'un autre, c'est parce que c'est celui où passait, voici 30 ans, une jeune fille aux manches larges et brodées, ou seulement parce qu'à une certaine heure, il reçoit la lumière de la même façon que cet autre portique dont tu te rappelles plus où il était. Des millions d'yeux se lèvent sur des fenêtres, des ponts, des capriers, comme s'ils parcouraient une page blanche. Nombreuses sont les villes comme Philide qui se soustraient au regard, sauf quand tu les prends par surprise. Jamais dans mes voyages, je n'avais poussé jusqu'à Adelma. C'était la tombée de la nuit lorsque j'y débarquais. Sur le quai, le marin qui saisit la corde au vol et l'enroula à la bitte ressemblait à un homme qui avait été soldat avec moi et qui était mort. C'était l'heure du marché de gros. Un vieillard chargeait un panier d'oursins sur un chariot. Je crus le reconnaître. Quand je me retournais, il avait disparu dans une petite rue, mais j'avais compris qu'il ressemblait à un pêcheur disparu dans une petite rue. Lequel, déjà âgé quand j'étais enfant, ne pouvait plus se trouver parmi les vivants. La vue d'un malade atteint par les fièvres et recroquevillé par terre avec une couverture sur la tête me troubla. Peu de jours avant de mourir, mon père avait les yeux jaunes et la barbe hérissée exactement comme lui. Je détournais le regard, je n'osais plus dévisager personne. Je pensais, si Adelma est une ville que je vois en rêve, où ne se rencontrent que des morts, ce rêve me fait peur. Si Adelma est une ville véritable, habitée par des vivants, il suffira de continuer à la dévisager jusqu'à ce que les ressemblances se dissolvent et qu'apparaissent des figures inconnues, mais porteuses d'angoisse. Dans un cas comme dans l'autre, il est préférable que je ne persiste pas à regarder. Une marchande de quatre saisons pesait un chou frisé sur une balance romaine et le plaçait dans un panier suspendu à une corde qu'une jeune fille faisait descendre d'un balcon. La demoiselle était semblable à une fille de mon pays qui était folle d'amour et s'était suicidée. La marchande leva son visage. C'était ma grand-mère. Je pensais... Il arrive un moment dans la vie où, entre tous ceux qu'on a connus, les morts sont plus nombreux que les vivants, et l'esprit se refuse à accepter d'autres physionomies, d'autres expressions. Sur toutes les nouvelles figures qu'il rencontre, il imprime les vieux dessins. Pour chacun, il trouve le masque qui colle le mieux. Les débardeurs montaient des escaliers l'un derrière l'autre, ployés sous les dames Jeanne et les barils. Leurs visages étaient dissimulés par des capuches en toile de sac. Voilà, il les retire et je les reconnais, pensais-je à la fois impatient et craintif. Mais je ne les quittais pas des yeux. Pour peu que je jette un regard sur la foule qui emplissait ces ruelles, je me voyais assailli par des figures inattendues, revenant de loin, comme pour me reconnaître, comme si elles m'avaient reconnu. Peut-être que moi, pour chacun d'eux, je ressemblais à quelqu'un qui était mort. À peine étais-je arrivée à Adelma, et déjà j'étais l'un des leurs. J'étais passée de leur côté, confondu dans ce flot d'yeux, de rides et de grimaces. Je pensais. Peut-être qu'Adelma est la ville où l'on arrive quand on meurt et où chacun retrouve ceux qu'il a connus. C'est signe que moi aussi je suis mort, je pensais encore. Et c'est signe qu'au-delà, ce n'est pas le bonheur. Si vous voulez me croire, très bien. Je dirai maintenant comment est faite Octavie, ville toile d'araignée. Il y a un précipice entre deux montagnes escarpées. La ville est au-dessus du vide, attachée aux deux crêtes par des cordes, des chaînes et des passerelles. On marche sur des traverses de bois en faisant attention à ne pas mettre les pieds dans les intervalles. Ou encore, on s'agrippe aux mailles d'un filet de chanvre. En dessous, il n'y a rien pendant des centaines et des centaines de mètres. Un nuage circule. Plus bas, on aperçoit le fond du ravin. Telle est la base de la ville, un filet qui sert de lieu de passage et de support. Tout le reste, au lieu de s'élever par-dessus, est pendu en dessous. Échelle de corde, hamac, maison en forme de sac, porte-manteau, terrasse semblable à des nacelles, outre pour l'eau, bec de gaz, tourne-broche, panier suspendu à des ficelles, monte-charge, douche pour les jeux, trapèzes et anneaux, téléphérique, lampadaire, vase de plantes aux feuillages qui pendent. Suspendu au-dessus de l'abîme, la vie des habitants d'Octavie est moins incertaine que dans d'autres villes. Ils savent que la résistance de leur filet a une limite. Peut-être ce jardin n'existe-t-il qu'à l'ombre de nos paupières baissées. Peut-être les terrasses de ce jardin ne donnent-elles que sur le lac de notre esprit. Appelés à dicter des normes pour la fondation de Perrincy, les astronomes définirent le lieu et le jour selon la position des étoiles, tracèrent des lignes entrecroisées du Decamanus et du Cardo, orientées l'une d'après le cours du soleil et l'autre selon l'axe autour duquel roulent les ciels. Ils divisèrent le plan selon les 12 maisons du zodiaque, de telle sorte que chaque temple et chaque quartier reçoivent des constellations opportunes le juste influx. Ils fixèrent l'endroit où dans les murs ouvrirent les portes, prévoyant que chacune cadrerait une éclipse à la lune dans les 1000 ans à venir. Assurait-il, allait refléter l'harmonie du firmament, la rondeur, la raison naturelle et la grâce des dieux allaient donner forme au destin de ses habitants. Perinci fut édifié précisément selon les calculs des astronomes. Des peuples divers vinrent la peupler. La première génération née à Perinci commença de grandir entre ses murs. Ceux-là, à leur tour, arrivèrent à l'âge de se marier et d'avoir des enfants. Dans les rues et sur les places de Perinci, aujourd'hui, tu rencontres des estropiés, des nains, des bossus, des obèses, des femmes à barbe. Mais on ne voit pas le pire. Des hurlements gutturaux sortent des caves et des greniers, où les familles cachent des enfants à 6 jambes et à 3 têtes. Les astronomes de Perinci se trouvent devant un choix difficile. Ou bien admettre que leurs calculs sont faux et que leurs chiffres échouent à décrire le ciel. Ou bien révéler que l'ordre divin, c'est précisément celui que reflète la ville des monstres. Longtemps, Pira a été pour moi une ville enchâssée sur les pentes d'un golfe, avec de hautes fenêtres et des tours, fermées comme une coupe, avec au milieu une place profonde comme un puits, et avec un puits au milieu. Je ne l'avais jamais vue. C'était une de ces nombreuses villes où je ne suis jamais allée, que je m'imagine seulement à travers leurs noms. Euphrasie, Odile, Margara, Gétuli. Pira avait sa place parmi elles, distincte de toutes les autres, comme chacune des autres, unique aux yeux de l'esprit. Vint le jour où mes voyages me conduisirent à Pira. À peine y avais-je mis les pieds que tout ce que j'imaginais était oublié. Pyrrha était devenu ce qu'est Pyrrha. Et je croyais avoir toujours su que la ville, que de la ville, on ne voit pas la mer, cachée par une dune sur la côte basse et ondulée, que les rues sont longues et droites, que les maisons sont groupées de loin en loin, qu'elles ne sont pas hautes et que les séparent des dépôts de bois, de charpentes et des scieries, que le vent fait tourner les moulins des pompes hydrauliques. Désormais, le nom de Pyrrha me remet en esprit cette vue, cette lumière, ce bourdonnement, cet air dans lequel vole une poussière jaune. Il est évident qu'il ne signifie et ne pouvait rien signifier d'autre que cela. Mon esprit contient toujours un grand nombre de villes que je n'ai pas vues et ne verrai pas. Des noms qui portent avec eux une image ou un fragment ou un reflet d'image imaginée. Gétulie, Odile, Euphrasie, Margara. La ville haute sur le golfe est toujours là, elle aussi, avec sa place fermée autour du puits. Mais je ne peux plus l'appeler par un nom, ni me rappeler comment j'ai pu lui donner ce nom qui signifie tout autre chose. C'était Syllabus, des extraits des villes invisibles d'Italo Calvino, lu par Marie Constant, traduit par Jean Thibaudeau et avec à la musique E.E. Merci, à bientôt.